Et enfin, sur les marchés financiers, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, hein, sur le, c'est précisé sur l'invitation sur le site de.
Your conference is being recorded.
Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit sur le site web.speakup.info avec un code SAL qui est le 90912. Tout ça est précisé sur l'invitation que vous avez normalement reçue. Mathieu, je te laisse la parole.
Merci François. Bonjour à tous. Juste confirmation, on m'entend bien François, c'est bon?
Moi j'entends bien.
D'accord,
oui,
voilà. Je voulais juste vérifier parce que j'ai coupé et remis mon micro plusieurs fois pour pas gêner, donc je voulais être bien sûr. Donc bonjour à tous. Donc je commence par un point sur l'épidémie. Le constat qu'on peut faire, hein, c'est que sur la Chine et la Corée du Sud, qui sont les deux pays touchés les premiers, qui avaient réussi à contenir la maladie, on est toujours sur ce message-là, c'est-à-dire qu'on est toujours sur une épidémie qui est contenue en Chine avec pratiquement zéro cas domestique par jour. Enfin, il y a des cas importés, mais qui sont isolés, mis en quarantaine immédiatement. Et en Corée du Sud, on est stable sur un peu moins d'une centaine de cas par jour, dont la partie domestique est autour de 50, 60, donc quelque chose d'assez assez stable. De façon symbolique, hein, quand même, en Chine, on a un confinement qui a été levé partout, sauf à Wuhan. Et Wuhan, c'est dans quelques jours. Je crois que c'est le 8 avril, ce qui a été prévu pour lever le confinement. Et en Chine, on a même une politique d'incitation aujourd'hui des gens à retourner dans les restaurants et dans les magasins. Le gouvernement, par exemple, pousse les entreprises à accorder une demi-journée de congé par semaine pour que les gens aient le temps de reprendre leurs achats, etc. Et il y a aussi des coupons qui sont offerts, des bons d'achat. Donc on est en train de complètement changer de politique, hein, en Chine, où maintenant on essaye de pousser les gens à consommer, on essaye de les repousser à retourner dans les restaurants. Sur l'Europe, le constat quand même, hein, c'est que l'idée qu'on avait au départ, que l'épidémie pourrait être contenue sans doute assez rapidement si on se calait sur ce qui avait pu être fait en Chine et en Corée, on voit qu'on est quand même en train de déraper. C'est plus compliqué à faire visiblement quand même en Europe que ça n'a été en Corée du Sud par exemple. Donc ça c'est quand même un constat un peu négatif. Il n'empêche qu'on commence à avoir des signes un peu plus positifs, en particulier sur le premier pays européen qui a été touché, qui est l'Italie, on est sur un plateau, on est même sur une petite tendance baissière peut-être. Le point haut en Italie, hein, sur le nombre de cas, c'était le 21 septembre, à 6500 cas. On est aujourd'hui autour de 5000 cas, donc on a baissé d'à peu près 20%, sachant que dans le même temps, on a fortement accéléré le nombre de tests par jour, puisque la montée en puissance s'est prolongée, et que à l'époque on avait 25 000 tests par jour, aujourd'hui on en a 40 000. Donc ça montre que la baisse qu'on voit, en fait, est plus forte dans le fond, puisque on a eu une accélération des nombres de tests. Donc ça, c'est l'élément positif. On a d'autres pays, hein, la Suisse par exemple, l'Autriche aussi, qui ont l'air d'arriver à bien contrôler l'épidémie. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, c'est quelques pays en Europe, c'est des signes qui sont positifs, mais pas totalement concluants. On n'est pas du tout sur ce qu'on a vu en Corée, où le nombre de cas a été divisé par 10. Dans beaucoup d'autres pays, on a une situation qui reste assez volatile, hein. Vous avez vu les chiffres français qui peuvent s'envoler un jour, diminuer fortement. C'est vrai qu'un peu partout, le nombre de tests qui est en accélération a tendance à rendre la lecture des chiffres assez compliquée. Sur les États-Unis, là, on est par contre encore un cran plus décalé d'un cran. On a le nombre de cas qui ne fait qu'accélérer. Le pic n'est sans doute pas pour les prochains jours. Il va falloir attendre encore un certain temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se concentre plus sur le suivi de l'Europe, qui nous paraît avoir un temps d'avance, que les États-Unis, où il est difficile d'imaginer autre chose qu'une poursuite de l'accélération du nombre de cas, vu ce qui s'est produit dans les pays européens. Toujours sur l'épidémie, donc vous l'avez sans doute vu, hein, on a des confinements qui ont été repoussés un peu partout. Il n'y a vraiment que en Chine où on a une forme de déconfinement massif. Le reste, c'est plutôt une intensification, et en tout cas, de façon assez généralisée, on repousse la fin du confinement dans la plupart de pays. Sur les traitements, qui reste une question clé. On devrait avoir les premiers résultats des essais cliniques de l'étude Discovery au niveau européen en fin de cette semaine. Donc on est déjà vendredi, donc ça va être sans doute aujourd'hui, demain ou après-demain. Ça sera très très préliminaire comme résultat. Hein. Elle a été lancée il y a 15 jours, donc c'est quand même assez rare d'avoir des résultats aussi vite. Par contre, sur le mois d'avril et d'ici la fin avril, on devrait avoir des résultats plus fiables sur cette étude-là. Et puis surtout, on a pas mal d'études qui avaient été lancées, hein, à la fois sur le remdesivir de Gilead ou sur la chloroquine ou ses dérivés dans pas mal de régions, en particulier en Asie. Et donc voilà, on est encore en attente, mais on approche du moment où on va avoir des premiers résultats. Et puis surtout, on approche du moment où on va commencer à avoir des études sur les anticorps avec des prises de sang classiques et c'est là aussi dans les 10-15 jours on devrait commencer à avoir des résultats. C'est très important parce que c'est vrai qu'on a une vision très très parcellaire, hein, et très imprécise de cette épidémie. On n'a aucune idée, est-ce qu'en Espagne ou en Italie le taux de personnes qui l'ont eu déjà, est-ce que c'est 0,5% de la population, 3% ou 10%? En fait, personne ne le sait vraiment, et c'est quelque chose, c'est une donnée qui nous manque énormément, et quand on l'aura, ça permettra quand même d'affiner les plans qui ont lieu un peu partout. Sur l'économie, on a des plans qui se poursuivent. Alors le gros des plans, je les avais déjà annoncés, hein, la semaine dernière. Mais des plans budgétaires, je veux dire. On a eu quelques mesures supplémentaires. Le Japon, il y a eu une annonce d'un plan supplémentaire d'environ 500 milliards de dollars, donc quand même quelque chose de très significatif. L'Australie, à peu près 80 milliards de dollars. Sur le plan américain, donc que j'avais évoqué la dernière fois, il a été définitivement voté et signé par Donald Trump. Une petite précision, parce que c'était pas très clair. En fait, sur les mesures sur le chômage, en fait, les 600 dollars par semaine, c'est 600 dollars qui s'ajoutent pour toutes les personnes au chômage par rapport aux indemnités normales. Donc, si on prend l'État de New York, hein, typiquement, c'est à peu près la moitié. Si vous avez des revenus de 2000 dollars par mois, vous touchez à peu près 1000 dollars de chômage par mois. Temporairement, au lieu d'avoir ces 1000 dollars, vous aurez ces 1000 plus 600 par semaine, ce qui fait à peu près l'équivalent de 2005, donc vous aurez 3500 dollars. Donc c'est quelque chose de très élevé, et vous noterez que les 3500 dollars sont sensiblement supérieurs aux 2000 dollars du salaire de la personne. Donc en fait, la personne, en basculant dans le chômage, temporairement, va voir ses revenus augmenter assez fortement. C'est vrai pour les revenus modestes, hein, c'est pas vrai pour les revenus très élevés, mais ça reste vrai pour tous les revenus qui sont inférieurs à 4-5 000 dollars. Donc ça montre quand même le côté extrêmement offensif des mesures américaines, sans compter que à ces indemnités chômage s'ajoutent les chèques qui vont être envoyés, qui sont des montants qui sont bien sûr en plus. Sur les États-Unis, on a un plan d'infrastructure de 1 000 milliards qui a été évoqué par Donald Trump. On va le suivre, ça nous paraît quand même un peu compliqué. C'est un plan qu'il a voulu essayer de faire passer plusieurs fois depuis qu'il est président. Ça va être difficile, d'abord parce qu'il y a une opposition démocrate, on le sait, sur la façon d'implémenter un tel plan. Est-ce que c'est financé par le secteur privé ou est-ce que c'est vraiment financé par l'État? Il y a quand même un désaccord qui n'a pas été résolu. Et puis surtout, est-ce que c'est ce type de plan qui a du sens pour faire face à une situation d'urgence comme aujourd'hui? On peut se poser la question. C'est extrêmement long, hein, bien entendu, d'avoir un effet positif entre le moment où vous voulez lancer un plan d'infrastructure et le moment où il y a des ouvriers qui sont en train de bâtir les infrastructures. Il peut y avoir 6, 9, 12 mois. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on va suivre. Sur l'Europe, on a eu une déception qui n'était pas une surprise totale, hein, mais qui était quand même une déception d'un point de vue politique. C'est vrai qu'on a eu une visioconférence des chefs d'État. Il n'en est absolument rien ressorti. La volonté de certains pays d'avoir des émissions communes a été refusée. C'est pas une surprise totale, mais c'était quand même une déception. Sur les chiffres économiques proprement dit, on est quand même dans un degré de visibilité qui est quand même très faible, hein, faut l'avoir à l'esprit. Parce qu'on est dans des environnements totalement inconnus et on n'est pas totalement sûr de ce que les chiffres signifient par rapport à d'habitude. Si on regarde déjà au niveau du chômage, donc on a eu des chiffres américains extrêmement impressionnants d'inscriptions hebdomadaires au chômage, donc plus 3,3 millions la semaine dernière, plus 6,6 millions cette semaine. Donc ça fait quand même 10 millions de personnes qui sont inscrites au chômage en deux semaines. Donc mécaniquement, c'est l'équivalent d'un taux de chômage qui vu qu'on partait de 3,5, si on rajoute ces 10 millions de chômeurs, on est sans doute pas très loin des 10%. Attention, le chiffre qui sera publié cet après-midi du chômage aux États-Unis correspond à une enquête qui a été faite autour du 13 mars, donc qui ne prendra pas du tout en compte ces effets-là. Donc il ne faut pas du tout s'étonner si le taux de chômage bouge assez peu dans la publication de cet après-midi. Il y a un effet retard qui est inévitable. Côté chômage, en tout cas efficacité des mesures de chômage partiel en Europe, on a eu les chiffres allemands qui sont extrêmement impressionnants. Donc là, on a le chiffre sur le mois entier pour le mois de mars. J'avais donné un chiffre préliminaire sur une semaine la dernière fois. Sur le mois de mars en entier, on a 470 000 demandes de chômage partiel. Et là, on parle d'entreprises. Ce n'est pas un nombre de personnes, c'est un nombre d'entreprises. Pour comparer, sur l'ensemble de la crise de 2008-2009, on avait eu 100 000 demandes. Donc on est sur un facteur 5 en un mois par rapport à la totalité de 2008-2009. Et il y a des estimations qui sont toujours un peu compliquées à faire. Mais les estimations qu'on a, c'est qu'on aurait peut-être aujourd'hui 25% de la population active allemande qui serait en chômage partiel. Ce qui est à la fois choquant dans le sens que c'est très élevé et ça peut avoir un côté inquiétant, c'est aussi très positif parce que voilà, ça prouve que les entreprises ont recours à cette solution qui est quand même la meilleure des solutions pour faire que la crise ne soit pas trop durable d'un point de vue économique, c'est de ne pas licenciement dur, mais d'utiliser les chômages partiels qui font que le contrat de travail n'est que mis en parenthèse mais qu'il n'est pas rompu, et ce qui permet de reprendre rapidement derrière. L'Allemagne avait extraordinairement bien géré la crise de 2008-2009 par rapport à tous les autres pays. Et la principale explication, c'était justement cette utilisation du chômage partiel. Donc le fait que ce soit utilisé massivement, c'est plutôt un bon signe selon nous. Côté suivi d'activité en temps réel, je le dis, la visibilité est quand même très très faible. À part une certitude, c'est qu'on a un ralentissement extraordinairement violent et brutal, ça c'est certain. Pour l'apprécier, par contre, c'est plus flou. On a des enquêtes d'activité, les enquêtes ISM ou aux États-Unis ou les PMI, donc qui sont des enquêtes auprès des entreprises dans le manufacturier ou les services, qui ont très fortement chuté dans la zone euro, aux États-Unis, un peu partout. Mais c'est difficile de donner un équivalent de variation de PIB. Je pense qu'on n'est plus du tout dans des ordres de grandeur où ça a du sens. Sur la Chine, on a eu un fort rebond à l'inverse des enquêtes PMI après la très forte baisse du mois de février. De la même façon, je ne suis pas sûr que ce très fort rebond soit facile à interpréter. Donc on est revenu au-dessus de la neutralité de 50 dans l'enquête officielle, et puis on est resté quand même en dessous des 50 pour l'enquête qu'on appelle Caixin, qui est faite par une enquête privée. Mais dans les deux cas, c'est difficile à interpréter parce que on peut très bien imaginer que la production était à 100 en janvier, qu'elle soit tombée à 60 en février. Si elle remonte à 70 en mars, on ne sait pas ce que les entreprises répondent. Est-ce qu'elles disent « Ah bah ça va mieux, on a rebondi, donc elles envoient un signal positif » ou est-ce qu'elles gardent quand même la trajectoire du fait qu'on était à 100 deux mois plus tôt, et est-ce qu'elles continuent d'envoyer des signaux négatifs? Donc voilà, c'est très difficile de savoir ce que signifient vraiment ces indicateurs aujourd'hui, puisque les variations qu'on a connues, personne ne les a jamais connues, et les personnes qui répondent à ces enquêtes n'ont jamais été confrontées à une telle problématique, et donc c'est assez compliqué. Sur la France, on a eu une estimation de l'INSEE sur la diminution de PIB en instantané, donc qui a été faite sur la semaine dernière, sauf erreur, qui était d'une baisse de production de 35%. Donc c'est des chiffres extrêmement violents, c'est pas annualisé, c'est vraiment, on était à 100, on est passé à 65. C'est pas totalement incohérent avec des chiffres qu'on a commencé à évoquer, qu'on pourrait être en baisse de 20% sur le deuxième trimestre. Si on a une activité qui est à moins 35 sur avril, une bonne partie de mai, et que sur la fin mai et juin on se reprend un peu, peut-être que ce moins 35 se donnera à moins 20, moins 25 sur un niveau trimestriel. Ce qu'on aime rappeler, c'est que ce sont des variations qu'il ne faut pas comparer avec des récessions classiques, puisque dans les récessions classiques, les baisses de production, c'est des baisses en général, ça correspond totalement à la baisse de capacité de production. C'est-à-dire qu'on a moins de production parce que on a procédé à des licenciements, parce qu'on a des entreprises qui ont fait faillite et que la capacité de production du pays en fait a diminué d'autant que le PIB. Là, c'est pas du tout le cas. C'est une mise en pause d'une partie très importante de la production, mais sans destruction de capacité, on n'a pas de faillites extrêmement nombreuses aujourd'hui, et on a beaucoup plus de chômage partiel que de vrai chômage. Alors on verra les chiffres, faudra les suivre, mais voilà, c'est important de pas comparer un pour un. Les choses ne sont pas comparables selon nous. Et la capacité de rebond de l'économie est bien sûr bien supérieure à ce qu'elle est en sortie de récession. Mais je vais revenir dessus dans quelques secondes. Si on passe à la partie marché financier, on a quand même eu une stabilisation depuis quelque temps. On a le marché action s'est stabilisé. On a arrêté la baisse vertigineuse qu'on avait eue sur au début de la crise. On a des spreads de crédit qui eux aussi sont un peu revenus. Donc le coût d'emprunt des émetteurs privés après cette envolée a commencé à rebaisser. Et surtout un signe très positif, c'est qu'on a un marché primaire qui n'est pas fermé aujourd'hui. Donc cette expression qui est une expression un peu dans une forme de jargon, on va dire, c'est en fait le marché primaire, c'est là où les entreprises émettent leurs nouvelles émissions d'obligations. Et quand on dit qu'il n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il y a des moments de crise en 2008-2009 où vous aviez eu zéro émission pendant des semaines et des semaines. Personne n'était capable d'aller sur le marché pour émettre une obligation et se financer. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. On a eu un retour des émissions très rapidement et on a des volumes d'émissions qui sont assez significatifs. Et donc ça, c'est quand même un signe très positif. Non seulement les banques trouvent un soutien très important, les entreprises trouvent un soutien très important auprès de leurs banques, et ça, c'est des informations qui nous sont confirmées quand même régulièrement. Mais en plus, pour les plus grosses qui ont l'habitude d'aller sur le marché obligataire, elles continuent à pouvoir y aller. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très positif. Bon, il n'en reste pas moins que les marchés restent en très forte baisse sur toutes les classes d'actifs risqués depuis le début de la crise. Notre façon de voir les choses, c'est que on est sur des corrections sur les actions ou sur le crédit aujourd'hui qui correspondent clairement à des corrections de fortes récessions. Pas des corrections de grandes crises financières à la 2008-2009, on a moins corrigé, c'est vrai, mais on est quand même sur des baisses qui correspondent à une franche récession de l'économie. Et notre analyse, c'est que, autant en termes de contraction d'activité en instantané, ce qu'on connaît, c'est bien pire qu'une forte récession, c'est-à-dire que la baisse de production est absolument colossale par rapport à ce qu'on voit d'habitude, autant l'effet négatif, durable, sur l'économie de cette crise nous paraît plus faible qu'une forte récession classique, parce que comme je le disais, c'est vraiment une mise en pause de l'économie. On devrait être capable de limiter énormément le nombre de faillites, de limiter énormément le nombre de licenciements. Alors ce point-là est plus vrai peut-être sur l'Europe que sur les États-Unis, où le recours au chômage partiel n'est pas aussi clair. En tout cas, ça dépend les États et c'est quelque chose d'un peu plus flou, honnêtement. Mais clairement, dans une zone comme l'Europe, pour une fois, on va dire que le système européen paraît quand même de loin, par rapport au système américain, le plus apte à affronter ce genre de crise où il faut quelque part ne pas être trop libéral. Il faut à tout prix soutenir les acteurs économiques parce qu'il n'y a aucune raison de laisser. C'était un membre de la Fed qui le disait il y a une dizaine de jours, il n'y a aucune raison de laisser faire faillite à des entreprises qui étaient rentables avant, qui retrouveront des carnets de commandes juste après, qui n'ont absolument pas fauté dans la gestion de leur entreprise, et ce serait un gâchis totalement incompréhensible et absolument inutile. Et donc voilà, notre sentiment, c'est que toutes les mesures mises en place de soutien aux différents acteurs, via des garanties de prêts bancaires, via le chômage partiel, etc., devraient permettre une sortie de récession beaucoup plus positive que ce qu'on a vu souvent en période de récession. Surtout qu'on a un secteur bancaire qui, aujourd'hui, on n'a pas de problème du secteur bancaire. Les crises où vous avez un secteur bancaire qui est très abîmé génèrent souvent des rebonds très mous de l'économie. Notre analyse, c'est que c'est pas le cas aujourd'hui. Et donc voilà, on a le sentiment que même si on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer sur les marchés dans les prochains jours ou prochaines semaines, même si on manque cruellement de visibilité sur le moment où l'économie va pouvoir repartir, où on va pouvoir baisser le confinement et où donc, ce qui revient à dire au moment où l'épidémie va vraiment diminuer fortement. Je ne sais pas si c'est en Europe dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois ou un mois et demi, c'est très très difficile de pouvoir le dater. On a quand même cette conviction que le rebond de l'économie sera plus facile qu'il ne l'est d'habitude et que, voilà, comme les marchés aujourd'hui intègrent un scénario qui nous paraît être un scénario équivalent à une franche récession, dans une vision 9, 12, 18 mois, on est sans doute sur des niveaux intéressants pour se positionner. En tout cas, on est selon nous pas sur des niveaux pour alléger les positions. Mais par contre, je le redis, hein, sans visibilité, bien sûr, sur ce qui peut se passer à 2, 3, 4, 5 jours ou même 15-20 jours sur les différents marchés. Voilà, François, j'avais fini, là j'en ai fini avec avec ma présentation.
Merci Mathieu. J'ai peut-être relayé quelques questions qui nous sont adressées et justement qui sont sur un peu la période après. Est-ce que toutes ces liquidités, je reformule un petit peu les questions qui nous ont été est-ce que toutes ces liquidités qui sont mises en circulation aujourd'hui ne vont pas générer de l'inflation au moment de la sortie, étant donné que l'offre ne sera pas en état de répondre très facilement, et qu'aujourd'hui, le taux d'épargne, sans doute, est en train de remonter très fortement, puisqu'il n'y a plus grand-chose à consommer. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation à court terme et peut-être même à moyen terme sur les consécutifs aux dispositifs qui sont pris par les gouvernements et les banques centrales?
C'est sûr que si on se place dans le scénario positif où on sort assez rapidement de l'épidémie et du confinement et où on retrouve un niveau de liberté d'action c'est un scénario qui est assez envisageable. Alors c'est vrai que c'est difficile honnêtement en tant qu'économiste de parler de retour de l'inflation puisque ça fait 20 ans que toute personne qui a osé évoquer ce sujet-là a été démentie assez durement dans les faits, dans les 6 mois qui ont suivi. Donc ça devient assez délicat. Mais c'est vrai que voilà, nous on a regardé ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, parce que c'est quelque chose qui peut ressembler, hein, honnêtement, à une sortie d'un conflit où tout d'un coup il y a une forme de libération, on réaffecte la production à la production normale, on se remet à consommer, il y a un soulagement. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on avait eu une très forte accélération de l'inflation. Hein. On était monté pas loin de 20% en 47 ou 48, je ne sais plus l'année exacte. Et c'est vrai que l'argument qui est, tout d'un coup, il y a une demande qui a été frustrée, qui va pouvoir avoir lieu d'autant plus dans les pays où il y a eu des envois de chèques et des effets d'aubaine hein, que j'ai décrits, et qui vont arriver en masse sur une production qui aura du mal à revenir à 100% d'efficacité tout de suite et qui aura encore plus de mal à aller à 120%, parce que si tout d'un coup on a une surdemande, ça va être très difficile de faire une surproduction puisque on n'était pas du tout sur des... Avant crise, on était sur des chômages très bas partout dans le monde, donc de toute façon, ça sera difficile de revenir au-delà des 100% d'activité qu'on avait avant. C'est vrai qu'on se dit qu'à un moment, ça va coincer et que ce que nous dit la théorie économique, hein, c'est que normalement, ça doit générer de l'inflation. Alors c'est vrai que la théorie économique, comme je l'ai dit, hein, elle n'a pas été confirmée de façon évidente ces dernières années sur le comportement de l'inflation par rapport aux tensions du marché du travail, aux salaires, à l'équilibre offre-demande. Et c'est vrai que sur un choc assez brutal de ce type-là, à un moment où les États vont beaucoup dépenser, où les ménages pourraient revenir massivement et où même les entreprises pourraient se mettre aussi à investir hein, pour quelque part combler le retard qu'elles avaient sans doute, qu'elles auront constaté dans cette période sur leur capacité à absorber ce genre de choc en travaillant à distance, etc. Donc on peut imaginer aussi que les entreprises se mettent à investir sur toutes ces nouvelles technologies pour être mieux préparées la prochaine fois. On peut avoir effectivement un retour de l'inflation, alors peut-être pas à 10-15%, mais une inflation qui accélérerait vers 3-4% est un scénario où, à mon avis, on peut mettre une probabilité non nulle.
Bien. Il y a une question qui revient, je vais peut-être y répondre et tu compléteras, Mathieu, parce que tu as un passé d'assureur, qui est une question qui tourne sur les risques spécifiques sur les fonds en euros. qui pourrait surgir du fait de la crise. Ce qu'il y a, c'est que la FFSA publie trimestriellement les mouvements qu'il peut y avoir sur les fonds en euros, les arbitrages, les souscriptions, etc. Et à ce jour, on n'a pas eu les résultats du premier trimestre. Ce qui s'était passé à la fin de l'année dernière, c'est qu'il y avait eu pas mal de sorties du fonds en euros vers des unités de compte et que c'était ce qui correspondait à une politique commerciale de l'ensemble des assureurs, et avec aussi des conditions de plus en plus restrictives de souscription sur les fonds en euros. Ça, c'est ce qui s'est passé au dernier trimestre de l'année dernière. Sur le premier trimestre, c'est très difficile. Les fonds en euros, vous le savez, sont investis en quasi-totalité ou presque sur des obligations, des obligations normalement de bonne qualité. Marginalement, il y a un peu d'immobilier et un petit peu d'action qui était réduite pour des raisons, vous savez, de contraintes comptables et réglementaires à une part très faible pour ce qui concerne les actions. Donc je ne vois pas, on n'a pas eu vent de mouvement, de panique, de sortie brutale du fonds en euros qui pourrait mettre en difficulté tel ou tel assureur. À ce jour, il n'y a rien de tel. On a l'impression que la sidération face au choc économique lié au confinement fait que les comportements des épargnants sont aussi un peu gelés. Il n'y a pas que l'économie qui est gelée, je crois que les décisions, et peut-être que c'est aussi bien de faire ci ou de faire ça en période de tourmente, ne sont pas très nombreuses parce que justement on n'a pas les éléments pour prendre les bonnes décisions. Donc je ne vois pas aujourd'hui de risque particulier nouveau sur le fonds en euros. Je ne sais pas, Mathieu, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus.
Non, j'ai pas d'éléments particuliers.
Non. Alors, il y a une question qui est toujours la comparaison entre les États-Unis et l'Europe, où les États-Unis sont beaucoup plus réactifs dans les deux sens, quand on le voit aujourd'hui sur la montée du chômage aux États-Unis et sur la division européenne qui ferait que les États-Unis pourraient finalement s'en sortir mieux et plus vite que l'Europe. Est-ce que à ce stade on peut imaginer cela ou c'est trop tôt?
Moi je pense pas. En fait, ça dépend ce qu'on regarde. Si on regarde côté demande, c'est vrai que la demande américaine en sortie de crise sera sans doute plus forte que la demande européenne. Parce que l'injection est plus massive, c'est-à-dire que il n'y a pas d'effet d'aubaine en Europe, je crois. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de gens qui se trouvent plus riches grâce à cette crise. Il y a le chômage partiel qui comble 84% du net, mais c'est 84%, hein, c'est moins de 100. Alors qu'aux États-Unis, il y a un effet d'aubaine pour une partie de la population, hein, je veux dire, les envois de chèques aux gens qui n'ont pas perdu leur emploi et le fait d'augmenter à ce point les indemnités de chômage fait que il y a une réserve d'épargne qui est en train de se constituer, qui peut provoquer une accélération de la demande assez forte en sortie de crise. Donc ça, c'est on va dire, c'est un point positif pour les US. Par contre, côté production, ce que je disais, c'est que le chômage partiel à la demande qu'on applique un peu partout en Europe là, c'est quand même ce qui est sans doute le plus efficace, quoi. La priorité, c'est donc si on n'a pas besoin de réembaucher des gens pour reproduire, mais qu'il suffit de faire revenir les gens où le contrat de travail avait été mis en sommeil, mais qui n'ont jamais quitté les effectifs officiels de l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus rapide que de procéder de nouveau à des recrutements. Ça paraît assez clair, quoi. Donc voilà, moi sur le solde des deux, je donnerais un avantage à moi plutôt à l'Europe, honnêtement. Parce que je pense que le vrai problème là, c'est vraiment un problème plus de production qu'un problème de demande. Le fait que l'Europe bénéficie de ce système massif, hein, je vais donner les chiffres pour l'Allemagne, hein, c'est 25% de la population active qui a eu recours au chômage partiel, fait que on aura une capacité à reprendre la production sans doute plus vite. Et en tout cas, c'est quand même l'exemple de l'Allemagne, hein, en 2008-2009, où elle avait moins chuté et puis elle était repartie quand même beaucoup plus vite que nombre d'autres pays.
Merci, Mathieu. Il y a une question sur l'immobilier. Je ne sais pas si on a les éléments pour y répondre en ce moment. L'immobilier, vous avez vu que les transactions sont gelées, enfin le marché est totalement gelé. Est-ce que les prix de sortie seront affectés par le passage qu'on aura connu dans l'économie réelle? Je crois que c'est vraiment très difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Je crois que tout dépendra sans doute de s'il y en a une, de la réaction de l'inflation et de la réaction des banques centrales à cette éventuelle inflation et donc de l'impact sur les taux d'intérêt qu'il pourrait y avoir. Non, Mathieu?
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est très, très difficile. Il y aura un effet richesse à mesurer où est le marché action, parce que c'est vrai que le marché action a un impact. Où sont les taux d'intérêt? Comment se comportent les banques? Je pense qu'il y a un nombre d'inconnus aujourd'hui qui est quand même très important, qui rend la réponse assez difficile. Ouais. Sur l'épidémie, il y a une question. Alors, on n'est pas des spécialistes, hein, donc on le sait. Mais on est quand même obligé de suivre toute la partie épidémie et on y consacre beaucoup beaucoup de temps et donc on finit par avoir une forme de connaissance et donc c'est pour ça que je me permets de répondre à une question, c'est pourquoi l'Europe peine-t-elle à contenir l'épidémie, en particulier comparativement à la Corée du Sud. Alors on n'a pas de réponse catégorique. Il y a deux éléments qu'on peut avoir à l'esprit. C'est d'abord que la Corée du Sud est un cas particulier, dans le sens que ça fait, je crois, 5-6 ans que la Corée du Sud avait eu un programme qui visait justement à permettre des niveaux de tests et de réactions à des épidémies plus élevés. Cette épidémie est arrivée sur une Corée du Sud qui, quelque part, venait de se préparer à ce cas théorique. C'est un peu un hasard, mais c'est quand même ce qu'on comprend, hein, quand on lit les différentes publications. Et ça tient, alors ça participe aussi du pourquoi, ça tient aussi au fait pourquoi ils ont fait ça et pourquoi peut-être ils réagissent mieux, c'est qu'ils ont quand même connu des épidémies, le SRAS il n'y a pas si longtemps, il y a quand même souvent les dernières épidémies étaient localisées en Asie, et donc on a des pays qui sont plus près au niveau du système de santé et plus sensible au niveau des populations et des populations qui peut-être suivent beaucoup plus les consignes plus rapidement. Et là, on peut aussi sans doute se dire que il y a peut-être un civisme dans ces pays qui est plus élevé que dans certains pays d'Europe. Un suivi des règles plus clair. On a eu comme anecdote, hein, que par exemple sur Hong Kong, ils ont finalement décidé de fermer les bars. Jusque-là, ils voulaient s'en tenir au fait de demander aux gens de ne plus se rendre dans les bars. Et en fait, ils se sont aperçus que la population locale avait très fortement respecté la consigne, mais que les expatriés qui sont très nombreux à Hong Kong ne la respectaient pas du tout. Et donc finalement, ils ont été contraints de fermer les bars, non pas à cause de leur population locale, mais à cause de la population expatriée à Hong Kong. Et donc voilà, ça peut être une explication. Le niveau d'obéissance à des conseils, à des consignes, n'est pas forcément le même dans tous les pays. Je sais qu'en Lombardie, hein, il y a des estimations qui avaient été faites il y a 2 semaines que 40% de la population ne suivait pas du tout les consignes. La Lombardie étant l'endroit où il y avait le plus de cas quand même, les consignes étant le confinement, c'était même pas des consignes, hein, c'était un ordre ferme, c'était le confinement, et on avait ces chiffres qui étaient que 40% de la population ne le suivait pas, donc ça peut expliquer, je veux pas caricaturer avec les pays sérieux, pas sérieux, et les populations civiques et pas civiques, mais c'est possible quand même que des différences de mentalité puissent partiellement expliquer ça, en plus du fait que c'est un sujet qui est plus sensible puisqu'on a eu des épidémies récentes en Asie.
Oui, et peut-être qu'il y a aussi un niveau de contrainte différent en Corée et à Hong Kong dans la manière dont ils ont confiné les cas positifs. Je pense que c'était assez dur.
Ben, il y avait beaucoup d'auto-confinement en fait en Corée. Il y a eu beaucoup d'auto-confinement, c'est-à-dire que toute personne avec le moindre symptôme était censée s'auto-confiner 15 jours. Et ça demande que les populations jouent le jeu, puisque par définition c'est de l'auto-confinement, c'était non vérifié.
Il y a une question d'étonnement que je partage assez sur la vigueur du dollar.
Alors, j'ai vu la question, j'ai regardé pour me reprendre un peu de recul l'historique du dollar. En fait, si on regarde le dollar, ça fait quand même, il est sur une tendance haussière depuis le tout début 2018, quoi, hein. C'est-à-dire que on avait fait un point bas à 1,25, donc un point haut, on va dire, de l'euro à 1,25. Et puis on était repassé progressivement à 1,20, 1,15, 1,10. Et quand on regarde un graphique, honnêtement, on a cette même tendance haussière qui perdure. Donc avec de la volatilité, hein, parce que temporairement elle a rebaissé dans la crise puis il a remonté derrière. Donc sur un graphique, c'est pas particulièrement choquant, honnêtement. Après, dans les explications qu'on donne habituellement en pourquoi le dollar s'apprécie en période de crise comme ça, il y a une des explications, c'est que vous avez une gestion beaucoup plus active en fait aux États-Unis, et donc les gestionnaires américains auront une tendance à couper leurs investissements actions beaucoup plus fortement que les autres. Et parmi les quand ils coupent des actions US, bon bah ça change pas grand-chose, hein, ça a pas de flux sur le dollar. Et surtout ils ont tendance dans ces moments-là à couper qui est à l'étranger, parce que c'est plus la visibilité, plus c'est, en fait plus un placement est lointain, plus la visibilité et la compréhension que vous avez de ce qui se passe là-bas est faible. Et donc dans les périodes de crise comme ça où la visibilité globale est déjà très très faible, bah, vous avez tendance à couper les choses que vous avez du mal à surveiller. Surveiller ce qui se passe dans votre pays, c'est assez jouable. Surveiller ce qui se passe en termes d'épidémie, de mesures de confinement et d'économie dans tous les pays du monde, aujourd'hui, c'est vraiment très très c'est une charge de travail qui est absolument colossale. Et donc il y a une tendance à couper rapidement dans les investissements en actions étrangères et à rapatrier ça en dollars immédiatement. Et donc voilà, c'est une des explications qui est souvent avancée, c'est qu'il y a, il y a, il y a des rapatriements des gestionnaires américains depuis les actions hors États-Unis qui sont beaucoup plus forts que la symétrie des acteurs européens ou japonais sur leurs actifs américains qui vendraient pour les rapatrier.
Merci. Je vais peut-être répondre à une dernière question qui est relative un peu à la gestion des portefeuilles. Encore une fois, la quasi-totalité de notre activité est donc une gestion sous mandat. Et nous avons des mandats qui ont des niveaux d'exposition différents selon que c'est un mandat C ou un mandat B, notamment, qui sont les principaux. Nous sommes entrés dans cette crise avec un scénario évidemment qui n'était pas du tout de celle-ci, en étant globalement, après ça c'est en fonction de chacun client, en étant globalement légèrement surpondéré en actions. Avec de la marge de manœuvre étant légèrement pondérée, de la marge de manœuvre éventuellement pour renforcer, sachant que nous avons aussi eu de nombreux nouveaux clients ces dernières années qui, eux, sont rentrés progressivement et donc avaient des niveaux de cash pour certains beaucoup plus importants. D'une façon générale, on essaie d'être discipliné, c'est-à-dire qu'on a pas mal réfléchi à la façon dont on investissait, à nos process. On essaye évidemment de les améliorer, de les enrichir, mais grosso modo, on reste sur des éléments de philosophie, de discipline, qui sont assez constants. Ça peut nous être reproché, mais on a l'impression que sur la longue durée, qui est celle de notre positionnement en tant qu'investisseur, ils ont plutôt porté leurs fruits. Donc, dans les crises comme ça, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on écoute nos clients. S'ils souhaitent faire quelque chose de particulier, évidemment, il faut les entendre. Et sinon, collectivement, les gestionnaires, les analystes, ben, nous discutons et nous essayons de ne pas prendre de décisions majeures dans des périodes où, encore une fois, il est très difficile de rationaliser. La volatilité des marchés actions en particulier, mais pas seulement, parce qu'on a eu de la volatilité sur le crédit, on l'a dit, sur ce qu'on appelle le high yield, le haut rendement. La volatilité fait partie. Eh ben, malheureusement, de la classe d'actifs dans laquelle on investit, qui est tout simplement liée à l'évolution du cycle économique. Et le cycle économique, pour une raison totalement nouvelle là, eh ben, est très volatile. Et donc, prendre des décisions dans la période de grande volatilité, c'est toujours très difficile parce qu'on risque de ce qu'on appelle de prendre la porte de saloon et de prendre des mauvaises décisions. C'est arrivé à certains, par exemple au moment du Brexit où il y a eu une forme de panique. C'est arrivé à d'autres à la fin de 2018 où il y a eu aussi des inquiétudes sur la conjoncture et beaucoup de gens autour de nous ont pu prendre des décisions à ce moment-là qui sont révélées plutôt négatives et n'ont pas pu profiter, par exemple, de la reprise de 2019. Cette reprise de 2019, évidemment, elle nous est confisquée là, mais on est sur un phénomène très dense, très intense, mais en même temps très bref. Donc, je ne sais pas combien de temps les marchés vont rester déprimés, combien de temps l'économie va rester dans cet état de léthargie, mais en tout cas, on ne pouvait pas prendre de grandes décisions dans ces moments-là, parce que nous n'avons pas les éléments rationnels pour le faire. Et nous essayons de nous projeter sur le long terme, et sur le long terme, ces phénomènes de volatilité, de crise, de dépréciation, finalement, heureusement, sont surmontés. Et sur le long terme, les marchés montent, et c'est bien pour ça que nous privilégions sur le long terme l'investissement en actions à tout autre, sous réserve, bien sûr, d'investir dans les bonnes entreprises à un prix correct. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de mouvement d'allocation tactique significatif qui soit donné, même si dans notre esprit, les bonnes affaires se font à l'achat. La question, et Mathieu l'a dit, c'est que le point bas des marchés, on ne connaît pas, et donc il faut toujours fractionner, si on a des décisions d'investissement à prendre, les fractionner, faire des échelles, en disant que ce ne sera qu'après coup qu'on saura oui ou non, si on a touché le point bas et si on a été actif sur ce point bas ou non. Donc nous, notre message, c'est un message d'attentisme, de ne pas prendre de décisions trop importantes, et pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, eh ben de renforcer, avec toujours une perspective de long terme évidemment, sur des entreprises de grande qualité, à des prix qui doivent être intéressants. Et ce qui est assez intéressant quand même aussi, c'est que beaucoup d'entreprises de très grande qualité ont certes connu une correction boursière significative, mais ne sont pas arrivées à des niveaux d'évaluation bradés, comme on en a connu en début 2009. Donc, en termes de valorisation, le marché est vraiment sur une tendance qui s'est construite depuis 4 ou 5 ans maintenant, c'est-à-dire que les entreprises de qualité sont devenues de plus en plus chères, et les entreprises, je ne parle pas des catégories les plus discutables et les plus mauvaises, les entreprises moyennes, c'est-à-dire un peu cycliques, générant pas toujours énormément de cash, etc., elles sont très, très, très dépréciées. Donc, c'est la tentation pourrait être grande d'acheter trop de ce qu'on appelle de value, de choses trop bon marché au détriment de la qualité, ou la tentation pourrait être grande d'acheter de la qualité à des prix qui ne sont pas finalement bradés. Donc, on avance très prudemment, surtout qu'on ne sait vraiment pas très bien comment les entreprises vont passer en termes de cash flow cette période qui est évidemment très dure et sur laquelle on a du mal à mettre une valorisation rationnelle. Voilà, écoutez, il est midi. Je pense que nous avons le devoir de tenir nos horaires. Nous vous remercions de nous avoir rejoints et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Évidemment, toutes les équipes de Lazard, je vous l'ai dit, sont à votre disposition. Lazard fonctionne et reste bien sûr à votre service. Et merci et je vous souhaite un bon week-end. Merci Mathieu.
Merci.